sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Voilà, il est 15h30, donc l'heure est tenue. On ne présente pas Alain Duhamel, mais avant de présenter quand même Alain Duhamel, je rappelle ce que j'ai dit au début de cette séance, que François Dorcival, malheureusement, a été empêché. Un courtisan qui célèbre a dit que c'était à l'insu de son plein gré, je reprends la formule, pour ne pas en dire plus, il est vraiment très fâché avec lui-même, si j'ose dire. On lui a pas donné son avis de ne pas animer ces journées, ces rencontres, ces conversations chez M. Thiers, pour lesquelles je demanderai un très grand silence, si c'est possible, en tout cas le plus rapidement possible. Donc, c'est le deuxième épisode de ces conversations chez M. Thiers. Donc, on ne présente pas Alain Duhamel, d'autant moins que j'allais lui dire, en parodiant deux vers assez célèbres dans une tragédie de Corneille qui s'appelle Horace, où ils sont séparés. Horace, les Sabins et les Horaces sont séparés parce qu'il y a un combat. Et l'un de dit « Dorcival vous a nommé, je ne vous connais plus », et moi je réponds « Je vous connais encore et c'est ce qui me tue, je n'ai pas l'habitude d'interviewer Alain Duhamel, je suis ami d'Alain et de France Duhamel depuis 60 ans, mais je respecterai les règles, et lui aussi d'ailleurs, à savoir que nous nous vouvoyons alors que nous tutoyons, et nous ignorons tout l'un de l'autre, je ne sais pas grand chose de lui, je n'ai jamais lu, vous en doutez, mais néanmoins je vais essayer de mettre ma virginité à l'épreuve de son talent. Cher Alain Duhamel et chers confrères, mercredi dernier, sur BFM TV, une journaliste, assez agressive au demeurant, à laquelle vous parliez du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire à savoir Macron acte 2, vous dites « Ah, Macron acte 2, ça fait un an, deux ans, dix ans, vingt ans qu'on entend cette formule. » Comme j'ai l'esprit historien comme vous, je rappelle d'ailleurs un de vos livres, qui est moins connu que les autres, qui s'appelle « Les pathologies françaises », c'est-à-dire un livre d'histoire et de sociologie politique. Vous n'avez pas choisi vous avez déjà choisi le sujet avant l'intervention de Macron, le 16, c'est-à-dire le lundi, sur les migrants. Alors je vais poser, de quand date pour vous l'acte 2? Est-ce qu'il y a un jour précis, un moment? Je vous demanderai de respecter, s'il vous plaît. Je serais très honoré de vous respecter le silence, s'il vous plaît. Merci.
L'acte 2 commencera au moment où il y aura un affrontement symbolique, mais un affrontement quand même, entre la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes et des oppositions qui, d'une manière ou d'une autre, cristalliseront. Donc il y aura un moment qui existera. Est-ce que ça sera la semaine prochaine? Certains pensaient que ce serait hier, d'autres imaginent que ce sera dans 3 mois. Mais il y aura forcément un moment où, à propos de la réforme des retraites, de l'écologie, du prochain budget, de l'achèvement de la réforme sur le financement du chômage, etc., qui s'achève en ce moment, ou à propos des réformes de société qui reviennent, il y a un moment où ça cristallisera. Et à ce moment-là, on pourra vraiment dire, oui, on est dans l'acte 2. On est dans l'acte 2 aussi parce qu'il se trouve qu'on est à quelques semaines près au milieu de ce quinquennat.
Oui, voilà, donc c'est le milieu d'un quinquennat. C'est toujours un moment assez fatal. Alors, il y a toujours cette perspective, au fond, qui est très française, surtout depuis le quinquennat, que non seulement on parle du prochain quinquennat en commençant le premier quinquennat, mais on parle du milieu du quinquennat en envisageant encore davantage que pourrait être une non-réélection.
Alors, tous les présidents, en dehors du général de Gaulle, qui considérait depuis le départ qu'il allait de soi, qu'il resterait à l'Élysée autant qu'il en aurait envie, mais en dehors du général de Gaulle, tous les présidents successifs ont forcément pensé à leur réélection. D'ailleurs, ils l'ont avoué sans le dissimuler. Ce qui interprète néanmoins leur action gouvernementale comme simplement la préparation d'une réélection, se trompe complètement. Un président de la République est obligé d'abord de répondre à un certain nombre d'urgences. Il y a un an, on ne parlait pas de l'écologie comme on en parle aujourd'hui. Et il y a un an, surtout, il n'y avait pas des manifestations de l'importance de celles qui existent depuis quelques mois, parmi notamment les moins de 30 ans. Bon, c'est un facteur nouveau. Il faut qu'il y fasse face. Et ça n'est pas pour se faire réélire, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. En revanche, l'organisation de la réforme des retraites, qui est à peu près la réforme la plus risquée possible parmi toutes les réformes imaginables, la réforme des retraites, elle, était programmée. Elle était programmée, mais elle a été néanmoins décalée. Elle devait se faire avant la fin de l'année, et elle se fera non seulement après les élections municipales, mais elle se fera, dans le meilleur des cas, l'été prochain. Si, justement, il n'y a pas eu une cristallisation victorieuse contre la politique que dirige le président de la République, puisque chacun sait que sous la Ve République, et contrairement à la lettre de la Constitution, c'est évidemment le président de la République qui dirige le gouvernement, et que le Premier ministre n'est, si j'ose dire, que l'acteur-titre d'une tragédie dont l'auteur est le président en permanence. Donc on se trouve à cette période particulière où on sait qu'il y aura d'une manière ou d'une autre à un moment une cristallisation. On ne sait pas, on ne peut pas dire au bénéfice de qui, puisqu'aussi bien toutes les tentatives pour réformer le financement des retraites ont entraîné des conflits. Et jusqu'à présent, les tentatives pour modifier le régime des retraites étaient infiniment moins ambitieuses que celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit réellement de modifier un système qui avait été mis en place à la Libération, qui a été modifié très très souvent, mais qui néanmoins avait ses propres règles. Ses propres règles, elles vont changer. Donc il va y avoir d'une manière ou d'une autre une confrontation. Il faut souhaiter que ce soit une confrontation pacifique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça sera une confrontation mouvementée. Et je pense que la question essentielle sera de savoir non pas s'il y aura des adversaires parallèle face au président de la République, mais s'il y aura des adversaires convergents face au président de la République, c'est ce qui fera largement la différence, encore que le tempérament personnel d'Emmanuel Macron le porte assez peu à reculer.
Alors vous êtes un fin psychologue, on sait, vous avez des portraits très brillants. Un des plus brillants, il faut le dire, c'est François Mitterrand, dans toute votre œuvre, à mon avis. Mais enfin, vous avez des affinités électives justifié entre intellectuels, entre hommes cultivés, etc. On peut, avec un homme de gauche...
Des affinités effectives avec le personnage, oui, pas forcément avec le président.
Je n'ai pas dit effectives, affectives, j'ai dit électives.
Oui, mais justement...
Affectives avec le président, d'accord.
Justement.
Mais alors, je voudrais qu'on revienne quand même, donc on va essayer de peaufiner le portrait d'Emmanuel Macron, mais revenons tout de même à l'acte 1, s'il y a acte 2, il y a acte 1. Je voudrais qu'on revienne à l'irruption d'Emmanuel Macron dans la vie politique française. Est-ce que le mot « en même temps » la résume ?
Non, je pense que le caractère le plus évident, c'est la surprise et la rupture. En réalité, sous la Ve République, depuis le début, il y a eu deux ruptures politiques. Il y a eu une rupture sociologique qui est mai 68, qui est d'ailleurs peut-être la plus importante de toutes. Mais il y a eu deux ruptures politiques, l'une en 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir pour la première fois depuis 23 ans, et l'autre, cette fois-ci, quand on a vu surgir du néant politique un jeune homme, 39 ans pour la candidature, c'était un jeune homme sans parti, sans expérience politique, sans passé politique réel. Il avait été 2 ans au gouvernement et 2 ans à l'Élysée, mais ses prédécesseurs avaient construit leur trajectoire pendant au minimum 20 ans et en général 30 ans. Là, on était dans un changement total. Et avançant autour d'idées qui, d'ailleurs, se présentaient comme des ruptures avec ce qui existait. On peut dire, comme vous me le suggériez, en même temps, dans la mesure où il voulait rompre en même temps avec la droite et avec la gauche. Il voulait rompre en même temps avec la pratique de la social-démocratie telle qu'elle avait existé sous des formes différentes et avec des réussites variées, mais telle qu'elle avait existé entre 2012 et 2017. mais aussi telle qu'elle avait existé auparavant, de 1981 à 1986, puis de 1988 à 1993. Les thèses, le style, la tactique utilisée par Emmanuel Macron, c'était une rupture avec cette social-démocratie-là. Et c'était aussi, simultanément, une rupture avec ce qu'avait été la droite, disons en simplifiant, gaullo-libérale depuis plusieurs années, sous Nicolas Sarkozy, et auparavant, sur un registre différent, sous Jacques Chirac, pendant un septennat, puis un quinquennat. Donc il y avait cette volonté de rupture, c'était une volonté de renouvellement, c'était un pari extraordinairement audacieux, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Quand il a commencé à laisser percer un appétit présidentiel, c'est-à-dire moins d'un an avant l'élection, au départ, parmi les observateurs les plus graves, parmi les politiques les plus chevronnés, personne ne croyait qu'il pouvait gagner. Il y en a comme moi qui pensaient que c'était un homme politique de première importance qui apparaissait. Mais de là à dire qu'il allait être élu, non. Et parmi ceux qui se sont trouvés être ses concurrents ou qui ne sont pas parvenus à être ses concurrents, la plupart disaient « Oui, il fera peut-être un bon score, il sera intéressant, mais c'est typiquement un candidat de premier tour. Il prend date pour la suite. » Et les plus bienveillants disaient « Il prend date pour l'élection d'après. » Donc ça a été non seulement une rupture, mais ça a été une surprise. Cette surprise, il faut la mettre sous le signe de l'audace, parce que...
Alors c'est pas pour lui que vous avez écrit la marche consulaire, mais en fait c'est pour lui que vous auriez dû l'écrire.
Non, j'aurais pu, oui, d'autant plus que je pense, on y reviendra peut-être, qu'il y a une dimension, il n'y a pas que ça, mais il y a une dimension néo-bonapartiste chez Emmanuel Macron. En fait, je l'avais écrit à propos de Nicolas Sarkozy, mais pour les mêmes raisons.
Alors oui, quand interview aux Échos, je vous interromps, néo-bonapartiste, libéral,
oui,
face aux
orléanistes,
premier mouvement.
Absolument.
Ils ont pas la dimension laïque, on y reviendra.
Absolument, on y reviendra. Enfin, si vous voulez.
Oui.
En ce qui le concerne, son originalité, ça avait été d'annoncer un projet, une méthode et je dirais presque un état d'esprit français différent de tout ce qui s'était produit, bon, en réalité depuis la fin du gaullisme gaullien. Donc c'était incroyablement ambitieux, c'était en partie candide, d'ailleurs il l'a démontré puisque pendant... les deux premières années, il y a eu des comportements qui relevaient de l'impréparation ou qui relevaient d'une forme de candeur politique. Et puis, il y a eu en même temps des intuitions quelquefois étonnantes et un esprit d'entreprise politique assumé. Et si j'avais fait, si j'avais écrit la marche consulaire à propos de Nicolas Sarkozy, c'est parce que Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, lui aussi avait voulu une rupture, en particulier avec Jacques Chirac, donc une rupture avec la droite habituelle et évidemment une rupture avec la gauche. Et que lui aussi, comme Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il y a une dimension néo-bonapartiste, est un homme qui voulait incarner, assumer, exprimer, concentrer le pouvoir, prendre lui-même les responsabilités et les revendiquer sur la place publique. Donc ils ont, de ce point de vue... des points communs psychologiques. Simplement, il se trouve que ça n'est pas la même famille politique. Et il se trouve qu'il y a en plus le côté Lorenzaccio d'Emmanuel Macron avec cette séduction encore juvenile qui ne ressemblait pas à celle de Nicolas Sarkozy au moment où il a été élu. Bien que Nicolas Sarkozy ait fait une très belle campagne pour entrer à l'Élysée.
Vous trouvez que Nicolas Sarkozy ressemble plutôt à Agassi, c'est ça ?
C'est ce que j'ai écrit.
Je vous ai
lu. Que, effectivement, il représentait dans la tradition politique française ce que André Agassi avait représenté au tennis, c'est-à-dire un changement d'allure, de langage, de vêture, de psychologie et en partie de jeu.
Alors, ceci étant, rupture, vous avez expliqué, en même temps, bon, ça ne suffit pas, mais enfin, vous avez développé fort bien la raison pour laquelle cette irruption à son style, il a quand même, aux élections législatives, une majorité à laquelle on ne pouvait presque pas s'attendre. Ce sont tous des néophytes, non ?
Non. En tout cas, autant je revendique de ne pas avoir vu 2 ans à l'avance et encore moins 1 an à l'avance qui serait élu, autant j'ai toujours été persuadé qu'il aurait une large majorité.
C'est par logique et destitution ou par
lui-même ? Mais pour parler d'eux. Parce qu'il y avait la conjonction, d'une part, de la mécanique du quinquennat qui consiste à les élections législatives suivant désormais l'élection présidentielle, a en réalité confirmé l'élection présidentielle par les élections législatives, parce que quand les gens ont fini par voter dans un sens, ils ont envie que l'expérience puisse se dérouler, donc qu'il y ait une majorité. Qu'elle sait, que cette majorité-là soit aussi large qu'elle l'a été, puisque si après tout le premier tour de l'élection présidentielle a été étroit, en revanche le premier tour de l'élection législative a été très très large. Mais c'est à cause de cette mécanique institutionnelle, mais aussi à cause de la grande surprise et je dirais de la curiosité des Français vis-à-vis d'un style tellement différent et d'une inspiration qui se présentait comme tellement différente.
Alors on a beaucoup dit que la réussite d'Emmanuel Macron finalement était due au déficit intellectuel, pour ne pas dire plus, de Mme Le Pen dans le fameux face-à-face, où on a aussi prétendu qu'elle l'avait fait exprès, c'est-à-dire qu'elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas assumer le pouvoir qui éventuellement leur tomberait entre ses mains. Alors il y a la part de légende, il y a la part de la pression, il y a la part de programme aussi.
Bon, si Marine Le Pen avait fait exprès de rater son débat de l'entre-deux-tours, disons qu'elle a été admirable dans ce rôle.
Voilà.
Bon. Je ne crois pas un instant qu'elle l'ait fait exprès. Je crois qu'elle savait très bien qu'elle serait battue et que son idée était d'abord de faire mieux que son père au second tour. Ça, je crois que c'était vraiment un ressort. Et ressort après tout réussi, puisqu'elle a fait mieux que son père. Et d'autre part, elle aussi, de prendre date. En ce sens, elle est beaucoup plus vieux monde qu'Emmanuel Macron. Elle fait partie de ceux... Bon, ça, la prochaine fois, ça sera la troisième fois qu'elle sera candidate. Comme François Mitterrand avant de se faire élire, comme Jacques Chirac avant de se faire élire. De ce point de vue, elle est totalement dans la norme et elle pensait qu'à chaque fois, elle progresserait et qu'au bout du compte, elle aurait sa chance. Elle aurait sa chance parce qu'elle était persuadée qu'Emmanuel Macron, préférant l'Europe au nationalisme et préférant l'ouverture mondiale au souverainisme, était forcément condamné à échouer, puisque dans la tête de Marine Le Pen, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Bon, je pense qu'elle a payé lourd pendant 1 an l'échec de son face-à-face, parce qu'après tout, c'est assez rare que les Français aient l'occasion pendant 2 heures de pouvoir réellement évaluer ce que valent des candidats, même s'ils sont très connus comme elle l'était et comme ne l'était pas Emmanuel Macron. Mais au bout d'un an, elle a retrouvé son assise. Et je crois qu'elle est aujourd'hui plutôt plus forte qu'elle ne l'était à la veille de la dernière élection présidentielle. Autrement dit, il est effectivement probable qu'elle soit la plus puissante adversaire, antagoniste d'Emmanuel Macron la prochaine fois, sauf si surgissait une surprise d'une taille comparable à celle qu'incarne Emmanuel Macron. On parlera peut-être de la question de savoir si finalement c'était une bonne ou une mauvaise surprise. Mais parmi ceux qui sont susceptibles d'être candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, je n'en vois pas pour l'instant, mais j'ai peut-être de mauvais yeux et puis je ne porte pas de lunettes. Donc il est possible qu'il y ait une révélation. Disons que jusqu'à présent, elle m'a échappé.
Bon, écoutez, surtout, vous ne voulez pas la dire, vous avez tout à fait raison, mais je crois que vous êtes très raisonnable, vous ne pouvez pas vous permettre un pari, ou même, je dirais, une audace verbale. Dites-moi, je voudrais quand même qu'on dise 2 mots de ce qui était positif dans l'acte 1, parce que la réforme du Code du travail, il y a tout de même la réforme de l'enseignement supérieur, il y a tout de même Parcoursup, puis, on présente l'acte 2 comme étant au fond, après un baptême assez difficile, beaucoup d'effections, beaucoup de difficultés, avec l'éruption toujours des gilets jaunes dans la vie politique, comme étant une sorte de nouvelle épreuve positive, comme pour les chevaliers au Moyen-Âge, que je quitte à peine.
Emmanuel Macron a au départ voulu adopter dans la mise en œuvre des réformes un rythme qui n'avait jamais existé auparavant, sauf pendant le gouvernement Debré sous le général de Gaulle, c'est-à-dire de 1959 à 1962. En rythme de réforme, c'est certainement le moment. Alors on peut dire que d'une certaine façon, François Mitterrand, entre 81 et 83, a aussi eu un rythme de réforme, mais d'abord il a été moins précipité, puis ensuite il allait dans la direction opposée. Bon, mais enfin, depuis le gouvernement Debré, aucun gouvernement n'avait tenté ce rythme de réforme. Donc il y avait là une ambition. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait l'idée d'incarner et d'entraîner. Et une des originalités de l'élection est que, alors que les Français sont quand même dans l'ensemble profondément sceptiques vis-à-vis de la politique et vis-à-vis de leurs élus et vis-à-vis de leur président au pluriel, il s'est trouvé qu'il y a eu au lendemain de l'élection quelque chose comme une espèce de petit vent d'optimisme et de surprise. Ça n'a pas duré, ça ne dure jamais, mais ça arrive très rarement et en l'occurrence, ça s'est produit. Donc, en dehors des réformes elles-mêmes, il y a eu un climat différent. Et puis, c'est quelqu'un qui, au départ, je dis bien au départ, ensuite on en viendra à ses échecs, hein, mais c'est quelqu'un qui, au départ, a intéressé. Il a intéressé sur le plan international. Il faut quand même avoir en tête que depuis Jacques Chirac et l'Irak, la France avait un rôle effacé sur le plan international, quelquefois réel, mais pas visible. Bon, quand il est arrivé, il y a vraiment eu, dans tous les pays du monde, qu'ils soient favorables ou qu'ils soient hostiles, il y a eu un énorme mouvement de curiosité. On n'a parlé que de lui pendant 3 mois. Il a eu droit déjà à la couverture de Time Magazine, ce qui est la plus grande reconnaissance mondiale. C'est l'équivalent de l'Oscar à Hollywood. Et il a eu droit à des grandes controverses instantanées dans tous les pays. Et il a réussi son entrée en ce qui concerne l'Europe, où il est quand même le seul président de la Ve République qui ait fait sa campagne en assumant une ambition européenne. Valéry Giscard d'Estaing était aussi européen que lui, mais Valéry Giscard d'Estaing n'a pas du tout fait sa campagne sur l'Europe. On peut dire que François Hollande ou Nicolas Sarkozy étaient européens et ont pris des positions européennes pendant leur campagne, puis dans leur politique ensuite. Mais on ne peut pas dire qu'ils en aient fait la figure de proue de leur navire politique. Au contraire, Emmanuel Macron s'est présenté comme, si j'ose dire, le nouvel européen. Et ce qui a été étonnant et qui, pour le coup, ne s'était pas produit à propos de la France depuis Valéry Giscard d'Estaing élu, c'est qu'il y a eu un vent d'intérêt dans toute l'Europe. Alors d'intérêt ou d'hostilité, ça dépendait évidemment de l'orientation des gouvernements. Mais dans la presse, partout, il y a eu un vent de curiosité. Et ce qui est intéressant, mais là peut-être que j'anticipe, c'est que dans la période actuelle, depuis les élections européennes, pas seulement les élections européennes en France, les élections européennes sur le continent, il y a de nouveau un vent d'intérêt et une attente vis-à-vis de lui. Et les plus grands discours qu'il a prononcés, ça a été ses 3 grands discours sur l'Europe. Celui à Athènes, celui à Paris, à la Sorbonne, et celui en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, qui ont été 3 discours qui ont marqué sur le plan international, comme avait marqué François Mitterrand en parlant devant le Bundestag. Je me hâte d'ajouter que c'est extrêmement satisfaisant pour le sentiment national, mais que ça n'a strictement aucune conséquence électorale positive pour celui qui l'incarne.
Mais Biarritz ?
Mais Biarritz, c'est la même chose. À Biarritz, il s'y est très bien pris, puisqu'il a organisé ça comme un dramaturge.
À faire venir quand même le ministre des Étrangers d'Iran, c'est un coup de maître. Bah,
c'était déjà très bien, de commencer par inviter Poutine,
oui,
qui n'était justement pas invité au G7. Bon, ce qui créait, par principe, déjà une curiosité, une nouveauté et une hypothèse. Hypothèse qui, d'ailleurs, tend plutôt à se confirmer aujourd'hui. C'était un coup de dé incroyable de faire venir le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Mais enfin, il a réussi un miracle que personne ne peut contester et qui va beaucoup plus loin que ça, et qu'il a rendu Donald Trump bien élevé pendant 24 heures, ce que personne au monde n'avait jamais fait avant lui. Bon, donc le G7 a été une réussite. Bon, cela dit, je ne suis pas en train de vous dire que tout se soit très bien passé pendant l'acte 1, puisque c'était votre question.
Oui, non, mais
pendant l'acte 1, il y a eu la stupide affaire Benalla, qui a pris des proportions totalement disproportionnées, mais du fait de l'innocence et du manque de professionnalisme absolu de la politique d'explication de l'Élysée. Mais il n'empêche que ça a ruiné le climat pendant 6 mois, ce qui est complètement aberrant. Et puis il y a eu ensuite, ce qui est plus intéressant, face au rythme des réformes qu'il a menées et que ses prédécesseurs n'avaient pas osé mener, je pense par exemple à la SNCF ou au Code du Travail, mais aussi au plan de, à la réforme du financement de l'assurance chômage, etc., il a accumulé ce qui aurait été regardé comme des provocations autrement, et il y a eu, face à ça, le phénomène des gilets jaunes. Et le phénomène des gilets jaunes, ça a d'abord été de sa part une grande sous-estimation et, au bout du compte, pour dire les choses comme elles sont, une grande incompréhension de sa part comme de celle de ses principaux ministres. Les seuls ministres qui aient compris assez vite qu'il se passait quelque chose de pas ordinaire, quelque chose qu'il fallait prendre au sérieux, quelque chose qu'il fallait essayer de comprendre et quelque chose à quoi il fallait tenter de trouver des réponses, c'était les vieux de la vieille. C'est-à-dire, c'était Richard Ferrand et Yves Le Drian qui ont été les premiers à dire « attention, il se passe quelque chose ». Tous les jeunes gens, je ne dis pas ça à cause de notre âge commun, mais tous les jeunes gens qui sont au gouvernement, tous les jeunes gens qui sont au gouvernement sont totalement passés à côté de ce qui se produisait. Et le président de la République, qui est de leur génération, en a fait autant. Il a fallu 4 mois, des violences et le sentiment que ça n'était pas simplement un accès de mauvaise humeur, que c'était la révélation d'un sentiment de lâchage, en réalité, d'une partie de la population. Et que ce sentiment-là, il s'exprimait d'une manière qui ne s'était jamais produite auparavant. Donc on était encore dans un nouveau monde. Le nouveau monde, si j'ose dire, c'est Macron, mais le nouveau monde, c'est aussi l'antimacronisme. Les formes de l'antimacronisme sont aussi neuves que le macronisme lui-même.
J'entends bien, mais alors est-ce que le nouveau monde, est-ce que Macron, en ce moment, ce n'est pas aussi des quadras contre les seniors qui commencent, disons, à 65, est-ce que c'est pas un problème de génération? On a beaucoup parlé de problème de génération. Il y a d'ailleurs beaucoup de livres qui historiquement voient des générations. Une génération, c'est 15 ans, hein. c'est pas plus.
Génération politique.
Politique. Mais est-ce que là, il n'y a pas vraiment un fossé entre une jeunesse qui est entre 30 et 45 ans et une classe plus âgée qui est entre, avec l'allongement de la vie, entre 65 et 90 ans?
Je crois que vous avez forcément raison et tout à fait tort.
Tant mieux, ça veut dire que
vous, vous avez forcément raison, parce que l'acte 1 s'est traduit par une distance vis-à-vis des plus, que c'est comme ça qu'on compte en politique, vis-à-vis des plus de 60 ans,
c'est ça.
Hein, une distance, alors même que les plus de 60 ans étaient ceux qui avaient le plus voté pour lui à l'occasion de l'élection présidentielle. Bon, les causes, on les connaît bien, c'est la réforme sur les retraites, c'est la réforme fiscale, c'est les cotisations sociales, et c'est d'une certaine façon, un climat qui, à force de se concentrer sur les quadragénaires, finissait presque par mettre en état de péché ceux qui avaient plus d'un certain âge. Et il y a eu une distance qui s'est produite. En ça, vous avez complètement raison. Mais cette distance-là, elle est largement résorbée aujourd'hui. Et quand on regarde dans le détail les derniers sondages, quand je dis les derniers, je veux dire ceux des 3 derniers mois, la distance avec les seniors s'est largement résorbée. En revanche, il y a d'autres distances qui se sont creusées. Et en particulier, des distances avec les classes populaires, ça incontestablement, plus que ça n'était le cas au moment de l'élection présidentielle, avec une partie de la jeunesse, bon, disons les choses carrément, ceux qui font des études supérieures, en gros, sont en majorité favorables, et les autres sont en majorité hostiles. Bon, donc il y a aussi cette distance-là, et puis il y a quelque chose qui est en train d'apparaître en ce moment, et à lui de voir si l'acte 2 sera, de ce point de vue, une gestion plus habile que ça n'a été le cas sous l'acte 1, ce qui est le cœur de ses soutiens politiques, le cœur de ses soutiens électoraux, c'est-à-dire en réalité les cadres, c'est-à-dire en réalité ceux qui exercent des fonctions de responsabilité ou qui ont eu la chance d'avoir accédé à l'enseignement supérieur. C'est là qu'est le cœur de son électorat. Et les réformes qu'il envisage maintenant, ou certaines de celles qu'il a mis en œuvre avant, disons, frappent de plein fouet les intérêts de cette catégorie-là. Et donc, c'est un des risques qu'il court sous l'acte 2.
Alors, Jean-Claude Trichet, qui était ici d'ailleurs hier, a dit en privé, mais on peut le répéter parce que c'est une parole, un diagnostic public, que Macron a raté, vous étiez d'ailleurs à cette conversation, a raté la réforme des retraites dans la mesure où il bénéficiait à ce petit vent dont vous avez évoqué la nature au début, tout à l'heure d'ailleurs, de votre intervention. Il aurait dû le faire dans les 2 mois. Il aurait dû simplement, je cite ce qu'a dit Jean-Claude Trichet, allonger la retraite de 2 ans. Vous vous souvenez de cette conversation ?
Oui, très bien.
Vous avez assisté. Donc, à votre tour, je vous demande, qu'en pensez-vous ?
Ben, je pense que c'est...
Comment l'analysez-vous ?
Je pense que c'est la démonstration de ce que Jean-Claude Trichet est probablement notre plus éminent spécialiste financier et monétaire, mais que ça n'est pas notre meilleur spécialiste de l'analyse sociale.
Oui, mais...
et que cette distinction-là, à propos de la réforme des retraites, oui, c'est une vieille distinction. À propos de la retraite, il y a des mathématiciens qui disent... Voilà ce qui se passe, voilà quel est l'âge auquel désormais on meurt, voilà quel est l'âge où on prend notre retraite, voilà quel est le pourcentage d'actifs par rapport au pourcentage de retraités. Et ils font une superbe équation, ils arrivent en disant, hop, on augmente de temps. Dans l'absolu mathématique, ils ont complètement raison. Dans la réalité sociale, ils ont totalement tort. C'est pas comme ça que les choses se font. Et quand on dit qu'il a raté sa réforme, il n'a pas commencé. Je veux dire, il est en train d'essayer, par tâtonnement, par dialogue, par étude au pluriel, de la définir. Mais personne ne peut dire aujourd'hui ce que sera vraiment la réforme des retraites. C'est pour ça que quand on dit qu'elle est ratée, elle n'a pas commencé. Donc on ne peut pas dire qu'elle est ratée. En revanche, on ne peut pas dire davantage qu'elle réussira, parce qu'on n'en sait rien. C'est ce qui peut se faire de plus hardi. Avant, pour faire quelque chose de très hardi, il fallait décider d'envahir l'Espagne pour changer la psychologie des Français qui s'intéressaient trop à leurs difficultés intérieures. Alors on envahissait l'Espagne, ou on envoyait une armée en Algérie. Je parle du 19e siècle, évidemment.
Je préfère que vous nuanciez quand même. Parce que...
Dans les deux cas. Bon, mais aujourd'hui, si vraiment on est téméraire, on réforme les retraites, ou plus exactement, non seulement on réforme les retraites, mais on réforme le système des retraites. Je pense que c'est le principal enjeu de l'acte 2.
C'est pas seulement dû à l'allongement de la vie, c'est dû aussi aux modifications des structures économiques. Une France désindustrialisée, une France quand même qui est fondamentalement des emplois secondaires, etc. La morphologie du travail a changé en France.
Mais évidemment, mais elle a changé dans tous les pays.
Oui, mais... La France
a une particularité, c'est qu'elle a le système des retraites le plus généreux d'Europe.
Absolument.
Ce qui veut dire le plus généreux du monde.
Et la protection sociale aussi.
Oui, mais ce n'était pas la question.
Bon,
donc ça n'était pas la réponse. Bon, cette situation, aucun Français n'a envie d'y renoncer. Aucun Français n'a envie de voter pour quelqu'un qui va lui dire... Votre retraite va diminuer ou bien vous travaillerez plus longtemps. Mais il y a un moment où il faut savoir faire de la pédagogie et intégrer à la fois des facteurs démographiques qui sont dominants en matière de retraite, les facteurs économiques qui pèsent évidemment qui pèsent, personne ne peut dire le contraire, mais aussi les facteurs extérieurs sur lesquels on a infiniment moins de prise. Et qui vont modifier les choses. Selon qu'il y aura, comme le disent un certain nombre de prix Nobel d'économie, une nouvelle crise comparable à celle de 2008 dans les 2 ans qui viennent.
Depuis le temps.
Bon.
Oui.
Ou bien qu'au contraire, comme disent l'autre moitié des prix Nobel d'économie, mais non, il y aura un ralentissement, mais on en sortira. Hein, ils se répartissent en deux camps de taille égale. C'est des esprits les plus distingués dans ce domaine.
Bien sûr, bon, comme nous.
le résultat, c'est qu'il se peut que la conjoncture économique soit brusquement assombrie, et dans ce cas-là, la réforme des retraites sera beaucoup plus difficile, non pas à mettre en œuvre, mais tout simplement à faire passer. Ou bien il se peut, comme après tout, dans cette période de conjoncture actuelle, la France s'en tire mieux que d'habitude, et plutôt mieux que ses voisins, et même que l'Allemagne
même
en ce moment.
Oui.
Je ne dis pas que ça durera. Hein. Bon, mais enfin, c'est comme ça.
Donc
il se peut que les circonstances générales soient une aide. Et puis il se peut qu'il y ait une crise, comme le dit l'autre moitié des Nobel. Et à ce moment-là, eh ben, ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que faire des prévisions, au fond, on est obligé de discuter à propos des retraites sans savoir ce que sera la réforme et sans savoir ce que sera la conjoncture. Alors, ça nous permet quelquefois d'être brillants, je pense évidemment pas à nous deux, mais à des tiers, mais pas forcément d'être crédibles.
Moi, je trouve qu'on est pas mal du tout, mais enfin, c'est votre opinion. Ceci étant, je voudrais dire un sujet qu'on a abordé au début et qu'on reprend maintenant, qui est le problème des migrants. Donc, c'est un discours de lundi, à savoir que brusquement, Macron reprend la question de la migration, dit-on, pour faire face à Marine Le Pen, si on résume mal les choses, ou parce que finalement c'est l'heure. Parce que dans le même moment, il y a une chose qui me frappe, parce qu'on va aussi parler de la laïcité brièvement, c'est que le pape, qui subit une crise très grave du point de vue de son gouvernement et de son image, remet le discours, remet le couvert, je veux dire, en disant tous les migrants doivent être accueillis par tous les pays, en tout cas du G7. Donc, je dirais, il y a une convergence,
alors,
il y a une divergence.
Je ne m'engagerai pas sur l'évaluation de la politique pontificale, parce que je sais que sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres, vous êtes bien plus spécialisé que moi. Donc je ne tomberai pas dans le piège de vous tenir tête là-dessus. Ce qui, là, en revanche, sur la raison de savoir pourquoi est-ce que Emmanuel Macron remet la question de l'immigration sur la table maintenant. Alors, premièrement, un, pendant sa campagne, il en avait parlé de façon assez comparable à ce qu'il dit maintenant.
Oui.
Deux,
oui.
Pendant l'acte 1, il avait, si j'ose dire, plus à faire, et il était évident qu'il n'allait pas s'amuser à la fois à faire la réforme de la SNCF, la réforme en partie du financement social, la réforme du Code du travail, etc., et en plus de lancer le problème de l'immigration en ce moment-là. Il est déjà suffisamment téméraire comme ça, il ne cherchait pas non plus à empiler les problèmes. Pourquoi est-ce qu'il le ressort maintenant ? Il le ressort maintenant d'abord parce qu'il y a une crise européenne sur ce sujet qui n'est pas du tout ce qu'elle était en 2015, Dieu merci, puisque les flux sont exactement à l'échelle européenne, je ne dis pas à l'échelle française, à l'échelle européenne, le dixième de ce qu'ils étaient en 2015 qui a été le pic. Bon, mais il n'empêche que le problème existe, que les Européens sont très divisés là-dessus, sur les réponses qu'ils doivent donner, et que Emmanuel Macron, et alors là, c'est là qu'est le ressort politique, ne pense en l'occurrence pas tellement à Marine Le Pen qui ne pense au fossé qui se creuse entre les classes populaires et ce qu'on appelle de façon flatteuse et en simplifiant les élites. Et que son idée est qu'il ne faut pas que ce fossé-là puisse se creuser davantage. Et donc, il faut donner le sentiment à ceux qui sont pas simplement les plus défavorisés, parce que c'est la moitié des Français, y compris des Français qui vivent non pas largement, mais correctement. Il ne s'agit pas d'apparaître comme ceux qui, étant brillants et heureux, sont inconscients des problèmes que rencontrent ceux qui sont soit moins doués, soit moins chanceux qu'eux. Et donc, c'est un élément essentiel de sa volonté de donner le sentiment qu'après les Gilets jaunes, il est plus attentif à ce que pensent les Français les plus modestes et il cherche à leur donner des réponses. Alors, ça ne se traduit pas par une volonté de faire une loi sur l'immigration. On en a fait une il y a un an. C'est le temps qu'il faut pour que les effets d'une loi commencent à se manifester. Il y a d'ailleurs quelques petits effets qui existent, mais enfin qui ne sont pas des bouleversements. Il faut que là-dessus, il prenne des positions. Les positions qu'il va prendre, ce n'est pas des positions à la Marine Le Pen. Il va prendre des positions qui seront d'abord des positions européennes, c'est-à-dire en disant, si on veut trouver une solution à l'immigration clandestine, en ce qui concerne l'immigration clandestine, il faut qu'on ait des règles communes, parce qu'il se trouve que la France est le point de passage obligé de l'Europe. L'Europe du Nord vers l'Europe du Sud et inversement. Donc de toute façon, la France est un point de passage. Et donc la question est, trouvons une solution, mais c'est très compliqué, parce que, y compris par exemple parmi les gouvernements populistes, il y en a qui refusent absolument l'accueil d'immigration, mais qui n'acceptent qu'une politique nationale pour empêcher leur rentrée, et d'autres qui au contraire, par exemple les gouvernements italiens, demandent une répartition mécanique du nombre des immigrés par rapport à la population des différents pays européens. Autrement dit, tout le monde est divisé, y compris à l'intérieur de chaque camp entre libéraux européens et populistes. Il est évident qu'une de ces tentatives, ça va être, dans les semaines qui viennent, une fois avalé le choc du Brexit, qui d'ailleurs, d'une certaine façon, obligera tellement les Européens à bouger que ça peut faciliter l'élaboration d'une réponse commune sur l'immigration. Mais il cherchera une réponse européenne. Il recherchera une réponse européenne aussi en ce qui concerne le droit d'asile. C'est absurde qu'en Europe, il y ait des législations nationales différentes à propos du droit d'asile. Parce qu'automatiquement, ça provoque évidemment des courants qui existent. Pourquoi est-ce que tout le monde se précipitait, les Polonais d'abord, ou les Tchèques, en Grande-Bretagne? Et pourquoi est-ce qu'ensuite, tous ceux qui venaient du Moyen-Orient passaient en France avec l'idée, l'obsession d'aller en Grande-Bretagne? Parce qu'il se trouve que la législation britannique permettait à des gens en situation irrégulière, donc sans papier, de travailler tout de suite. Nous, on refuse. Évidemment, ils préféraient aller en Angleterre.
Et qu'on ne demande pas les papiers en Angleterre, dans la rue.
Bah, et qu'on n'a pas le droit de les demander. Et qu'on n'a pas l'obligation de les porter sur soi.
Absolument.
Ça, les Britanniques n'ont pas intérêt à se retrouver dans une manifestation à Paris.
Par rapport aux migrations, il y a tout de même un phénomène assez frappant. Au fond, les territoires dont on parle beaucoup souffrent en ce moment. J'ai vu récemment qu'on vendait un village en Haute-Saône, en tout cas des appartements dans un village. Il a pris une disposition pour requinquer les villages avec des cafés, en accordant des licences. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion, justement, qui pour des esprits pieux, disons, ou simplement des esprits qui ont la spiritualité en tête, fait qu'on se dit il y a des villages vides, désertés, et il y a des migrants qui ont besoin de vivre, de manger, de boire, de se laver. Est-ce qu'il n'y a pas une politique plus humaine? Et on parle de la migration avec humanisme, le mot qui vient. Naturellement, ce n'est pas la clé des champs, ni la clé des solutions, mais c'est le mot qui vient et qui rejoint d'ailleurs un vocabulaire religieux qui se trouve en ce moment à Rome.
Alors, je ne vais toujours pas à Rome, et je reste toujours, en l'occurrence, dans l'Hexagone. D'une part, en ce qui concerne l'intégration de, notamment, les demandeurs d'asile, qui sont une population assez différente des clandestins irréguliers qui viennent pour des raisons économiques. Eux, ils viennent par survie, d'abord, ceux qui sont les demandeurs de droit d'asile. Il y a des villages dans lesquels leur accueil et leur intégration se passent très bien et où ils contribuent à réanimer un village. Voire, par exemple, puisque ça fait partie des revendications des Français, voire d'avoir des enfants suffisamment nombreux pour qu'on maintienne en vie une école qui autrement fermerait. Donc ça existe. Et puis il y a au contraire des villages où l'irruption de 15 Afghans, c'est à peu près ce que pensaient les Gaulois contre les Huns menacés. Bon, donc on ne peut pas généraliser. En revanche, j'en reviens à... Il faut qu'il y ait une harmonisation européenne du droit d'asile. Il faut qu'il y ait des règles communes et il faut qu'il y ait aussi une politique d'immigration qui ne soit pas une politique de refus absolu, d'autant plus qu'il y a des pays qui ont besoin d'immigration. Ça, on ne le dit pas très souvent. Mais l'Allemagne a besoin d'immigration. L'Allemagne a besoin d'immigration parce que l'Allemagne a une courbe démographique telle que les cotisants ne sont pas assez nombreux pour payer les retraites, qui sont inférieures aux nôtres, et que pour payer les retraites, il faut d'abord des immigrés clandestins le cas échéant, parce que leur moyenne d'âge est évidemment très inférieure, et donc qu'ils cotiseront beaucoup pour ceux qui, aujourd'hui, ont 60 ans et plus. Bon, il y a des pays qui en ont besoin, et puis il y a des pays qui n'en ont pas besoin du tout. Puis il y a des pays qui en ont par-dessus la tête, comme les Italiens, qu'on a laissé se débrouiller tout seul quand même pendant 15 ans, président en président.
C'est la faute de la géographie.
C'est la faute des Européens qui ont considéré que, puisqu'il se trouvait que la plupart des immigrés débarquaient dans la péninsule, c'était à la péninsule de les absorber, ce qui était complètement stupide. Bon, et qui ne pouvait pas marcher, et qui a provoqué la croissance de la Ligue et le gouvernement de M. Matteo Salvini avant qu'il ne soit provisoirement mis de côté.
Oui, on y sera provisoirement ailleurs. Alors, j'aimerais que vous posiez une dernière question dans la définition que vous donnez du macronisme aux échos, enfin, du macronisme, non. Le bilan, le spectre que vous donnez du macronisme dans les échos, vous parlez donc du néo-bonapartisme, du libéralisme, et aussi de son attitude spécifique vis-à-vis de la question laïque. C'est-à-dire, en fait, de cette position qui n'est ni belliqueuse, ni indifférente.
Alors, je crois qu'en matière de laïcité...
Je relève parce que vous l'avez dit avec insistance.
Oui, mais j'assume. En ce qui concerne la laïcité... Macron est quelqu'un de totalement atypique. C'est pas le seul domaine dans lequel il est atypique, mais là il l'est, puisqu'au fond, c'est un laïc tolérant. C'est-à-dire qu'il considère réellement que l'État n'a pas à se mêler de l'exercice des religions, mais que l'État, et c'est ça sur le second point qu'il est original, mais que l'État, que le gouvernement, donc que le président, doit en revanche avoir un dialogue avec les religions, comme il doit avoir un dialogue avec les athées, comme il doit avoir un dialogue avec les francs-maçons, toutes choses qui se produisent à propos des projets de loi sur la PMA, par exemple, où ont été reçus, reçus longuement et plusieurs fois, les représentants des religions, mais aussi, évidemment, des représentants des courants laïcs, athées, francs-maçons, etc. Lui, sa thèse est on doit parler avec tout le monde, et le rôle du président, c'est de dialoguer avec tout le monde et de permettre à chacun de vivre selon ses principes, dans la mesure où il y a le respect de la loi par ailleurs. Bon, c'est une attitude très rare en France. C'est une attitude, en France, on a tendance à présenter les rapports entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas comme une sorte d'affrontement nécessaire, ce qui est complètement ridicule, ce qui d'ailleurs, historiquement, ne correspond plus du tout à ce qui a existé auparavant. D'ailleurs, ne serait-ce que parce que à cause de l'évolution de ceux qui croient et à cause de l'évolution des églises, mais je ne m'aventure pas plus, mais aussi à cause de l'évolution de ceux qui ne croient pas. Bon, donc... on est là dans une expérimentation. S'il y a une chose qui est aussi peu française que possible, c'est la tolérance. Les Français ont des grandes qualités, ils sont souvent entreprenants, ils passent pour avoir des idées, ils passent pour aimer ce qui est un petit peu spectaculaire, théâtral, courageux, etc. Ils passent, vous avez lu Tocqueville plus que moi, mais pour particulièrement brillants, et entreprenant à leur manière, entreprenant pas en matière économique, hein, entreprenant comme tempérament. Bon, mais ils passent comme dangereux, et ils passent comme instables, et avec deux défauts qui ont été soulignés par les meilleurs à de nombreuses reprises, qui sont l'égalitarisme et pas l'égalité, et l'intolérance. Et il se trouve que Emmanuel Macron essaye de combattre l'intolérance, qui est une originalité, et peut-être une témérité.
Alors, puisqu'on a lu Tocqueville, vous savez que Tocqueville, à propos du néo-bonapartisme, que vous attribuez à Emmanuel Macron, dit à propos du bonapartisme, c'est beaucoup d'être à la fois une garantie des principes révolutionnaires, une gloire nationale, et j'ai oublié le troisième, donc c'est la fois une garantie des principes révolutionnaires, une gloire nationale, et un principe d'autorité. Voilà. Donc, principe d'autorité, gloire nationale et garantie des principes révolutionnaires. Quels sont les principes révolutionnaires que Macron garantit ?
Il faut rappeler quand même d'un mot que les principes révolutionnaires dont parlait Tocqueville, c'était pour l'essentiel les biens nationaux.
Nous sommes d'accord.
Hein ? C'est ceux très nombreux qui ont construit quelque chose de nouveau sur les biens nationaux pourront les garder.
Et après ça, codification, code civil, voilà, code de commerce, etc.
Voilà. Nous sommes d'accord. Alors, il y a déjà une grande différence, je ne dis pas entre Napoléon, parce que là, ce serait de toute façon excessif et outrancier, ridicule
quoi,
entre le premier consul et Emmanuel Macron, il y a une différence qui est la gloire, déjà. Bon, Emmanuel Macron n'incarne pas la gloire. Il peut, pour certains, incarner le talent, pour certains, incarner une espérance, pour certains, incarner une nouveauté, mais pas la gloire. La gloire, c'est s'il arrive à réussir sa réforme des retraites et à se faire réélire néanmoins. Là, on pourra peut-être commencer à parler de gloire politique.
Mais Biarritz, c'était pas mal, quand même.
Bon, mais donc la gloire, non. L'autorité, c'est pour ça que je parle de néo-bonapartisme, tout en disant que ça n'est qu'un aspect, bien entendu. L'autorité, c'est quelque chose qu'il a envie d'assumer. Il le montre. Il le montre quelquefois trop, quelquefois maladroitement, mais en tout cas, il le montre. Il assume. Bon. Et pour le reste, ben, disons que ses batailles à lui, ce sont les réformes. Bon, le génie du premier consul puis de Napoléon, c'était de savoir à la fois gagner des batailles et faire des réformes civiles. Aujourd'hui, il faut être plus modeste. Si Emmanuel Macron arrive à réussir des réformes civiles, ça ne sera pas un empereur, mais ça sera quelqu'un qui aura fait quelque chose que ses prédécesseurs ont échoué à faire.
Alain Duhamel, au fond, qu'est-ce que c'est que le macronisme ?
Le macronisme, c'est une espérance hésitante et c'est un modernisme ambigu.
Retenez. Alors, on va arrêter là pour l'instant. Si vous voulez, vous applaudir. Oui. Voilà. Mais alors, écoutez, maintenant, j'ouvre les questions au public. Vous les posez en disant votre nom et en articulant.
Oui, c'est très important d'articuler.
Absolument. Je suis désolé, je tourne le dos vers ma droite, mais bon, c'est pas répulsif, c'est pour la commodité du débat. Écoutez-moi, j'admets la séduction parfaite qui rend muet, mais enfin bon. C'est un phénomène de sidération.
Autrement, tu prends le relais.
Non. Bon, alors. Si, monsieur, madame, oui. Mais posez de vraies questions.
Oui, oui. Bonjour, Carmela Serfati. Et je vous pose la question de savoir jusqu'où Emmanuel Macron ira avec l'idée de l'européanisation. Parce qu'en même temps, c'est-à-dire hier, j'ai fait la remarque, ou avant-hier, je ne sais pas, la remarque que le nationalisme, la nation était ce qui était le moteur du développement mondial pendant des siècles, mais ce qui était en même temps ce qui nous empêchait d'évoluer, d'aller vers des plus grandes forces, comme l'Europe, etc. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, jusqu'où il pourra aller dans ce sens.
Emmanuel Macron est un Européen typiquement français, c'est-à-dire le propre des Européens français, c'est-à-dire des Français qui sont vraiment Européens, disons Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand, et qui l'affichent, c'est d'avoir des grandes ambitions, très souvent d'ailleurs institutionnelles, mais d'avoir des très grandes ambitions. Mais la réalité des choses, qui date depuis le général de Gaulle, c'est que le dessein français, c'est grâce à l'Europe d'avoir un rôle français accru. Hein, le sentiment européen français des dirigeants, c'est ça. C'est on est pour l'Europe, on veut la faire avancer et on espère à travers ça avoir une influence accrue au sein de l'Union européenne. La différence avec Emmanuel Macron, c'est d'une part qu'il assume sa dimension européenne, mais il assume aussi sa dimension souveraine. Il parle de souveraineté européenne, mais il ne plaisante pas non plus avec la souveraineté française. D'ailleurs, on le voit très bien dès qu'il s'agit de discuter, par exemple, un traité commercial de libre-échange. À ce moment-là, on voit par miracle immédiatement ressurgir ce que sont toujours les lignes françaises. Attention à tel type d'agriculture, faisons attention à tel critère de nourriture qui doit être respecté de telle manière, etc. etc. Bon, l'idéalisme européen français, d'ailleurs assez rare chez ses dirigeants, n'empêche pas le réalisme national quand il s'agit de se tailler sa place en Europe. Et s'il fallait donner un exemple de ce qui s'est passé, on a renouvelé il y a maintenant 2 mois l'ensemble des dirigeants européens. On change de président du Parlement européen, de président de la Banque centrale européenne, de président de la Commission européenne. On change l'essentiel des commissaires, etc. La France a dit à quel point c'était important de trouver des gens de bonne qualité. Puis à l'arrivée, on s'aperçoit quand même, tant mieux d'ailleurs, mais on s'aperçoit quand même que ceux qui ont été nommés sont tous des alliés de la France d'une façon ou d'une autre. Ceux qui occupent les postes clés sont tous des vrais alliés. C'est-à-dire, quand on dit des alliés, c'est des gens qui ont la même conception que nous. Ce n'est pas des gens qui veulent nous obéir, mais c'est des gens qui veulent nous épauler. Ce n'est pas la même chose. Alors c'est ça, voilà. Le fond de l'Europe française, c'est d'aimer la France d'une façon européenne.
Monsieur. Attendez.
Merci. Oui. Oui, Pierre Guillotot, bien que ça ne soit pas le sujet, pensez-vous que le Brexit aura vraiment lieu?
Ça, c'est du prophétisme que
alors,
vous demandez.
Vous me demandez quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'on va avoir la réponse. Alors, c'est très ennuyeux de répondre à quelque chose qui va se produire d'une manière ou d'une autre. Je pense que l'objectif de Johnson, c'est évidemment un Brexit sans accord. Il fait tout pour ça et il a des moyens, je ne dis pas des moyens irrésistibles, mais il a des moyens d'y parvenir. Est-ce qu'il peut y avoir encore une autre hypothèse ? Oui, il y a une autre hypothèse qui est qu'il soit mis en minorité dès que le Parlement britannique, enfin les communes auront le droit de se réunir de nouveau, qu'il soit mis en minorité, qu'il y ait des élections générales qui de toute façon auront lieu avant la fin de l'année, que ce soit les travaillistes qui les gagnent, ce qui n'est pas du tout évident, pas du tout. Moi je pense que ce sera plutôt les conservateurs, voire les libéraux, qui sont en train de faire une percée, qui sont les plus européens de tous. Mais... À ce moment-là, s'il y a un changement de majorité et de gouvernement, les Européens accepteront évidemment de recommencer à discuter. Ils ne changeront pas leur position sur le fond, mais ils feront tout pour une sortie ordonnée qui est infiniment moins inconfortable pour tout le monde, hein, pour les Européens comme pour les Britanniques, voire peut-être, puisque c'est ce que maintenant demandent, et c'est, ça date de cette semaine, ça, les libéraux, les sociolibéraux, comme on dit en Grande-Bretagne, voire de renoncer à sortir. Eux, maintenant, font campagne sur ce thème-là et apparemment sont bien accueillis. Mieux que ceux qui demandent un autre référendum. Donc, ça reste ouvert. Disons que si c'est Johnson qui gagne, ils sortent, et ils sortent mal. Ce qui est catastrophique pour eux, mais ce qui est très ennuyeux pour nous. Si Johnson perd, à ce moment-là, il est possible qu'on trouve soit une sortie ordonnée, comme on dit, mais une sortie ordonnée, c'est, ça se négocie, et surtout ça s'étale dans le temps de façon harmonieuse, contrairement à la sortie brutale. Soit même que les Britanniques renoncent à sortir. Bon, je suis un peu sceptique sur le dernier point, mais...
Est-ce que tout ceci de... Monsieur...
Bonjour, Étienne Béchet. Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait qu'il y a un an, nous n'avions pas une conscience écologique aussi forte qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Macron a une véritable doctrine écologique à ce jour où il se contente de surfer sur le mouvement ?
Je ne crois pas du tout qu'il ait une doctrine écologique, parce que s'il en avait une, on s'en serait aperçu. Je pense que le gouvernement est comme tous les acteurs politiques, sociaux, syndicaux en France... conscient du fait que l'histoire va plus vite qu'eux, que brusquement l'opinion s'est mise à changer. Parce que, je veux dire, il y a 10 ans, les écologistes, c'était des originaux quand même. Il y a 5 ans, c'était des trublions. Et aujourd'hui, ce sont presque des saints. Bon, alors chacun essaye désespérément, brusquement, de mettre du vert dans ses couleurs, même quand ça ne va pas bien naturellement. Le gouvernement, c'est la même chose. Le problème, Emmanuel Macron sera demain à New York, il va prononcer un grand discours là-dessus. La France est celle qui a fait le cap 21, etc. On est très bien pour la mise en scène et on est très bien pour l'apparence. La question est de savoir si, à la suite de ce discours qui sera sûrement très réussi, il y aura des mesures concrètes, vérifiables, qu'on comprend, qu'on mesure et qui produisent des effets dans un temps raisonnable. Quand on dit dans un temps raisonnable, ça veut dire qu'il faut se dépêcher de prendre des mesures pour essayer d'atteindre les objectifs d'abord de 2030, puis de 2050, puisqu'on est censé être à l'équilibre, hein, 2050. 2050, ça paraît très loin, et en fait, c'est extraordinairement près. Bon, donc la question, il ne faudra pas le juger sur son discours, il sera très bon, il faudra le juger sur les actes, et là, je ne me prononce pas à l'avance.
Monsieur. Florian Dard, dans la suite de cette même question, est-ce que vous pensez que le climat et l'environnement pourraient être un des thèmes centraux de la prochaine élection présidentielle, voire même un des éléments décisifs ?
En tout cas, ça va jouer un rôle important, bien entendu. Certains donneront le sentiment de prendre des positions artificielles ou suspectes. Et puis d'autres, au contraire, donneront le sentiment d'avoir été de valeureux pionniers. Mais entre maintenant et le moment où on votera, c'est-à-dire dans plus de 2 ans et demi quand même, on va se rendre compte, je pense, de plus en plus de 2 choses. La première est que le calendrier, malgré les apparences, hein, puisqu'on parle de plus de 30 ans, mais malgré les apparences, le calendrier est extraordinairement resserré et qu'il faudra que tout le monde l'admette. Et la deuxième chose est que les conséquences pratiques pour les Français ne seront pas des récompenses. Ce seront des sauvegardes, mais ce seront des efforts. L'écologie, ça va avoir un impact direct sur le mode de vie, sur le niveau de vie, sur la fiscalité. Il n'y aura pas moyen de faire autrement. Et donc, il y a une idée qui aujourd'hui transporte avec elle de la nouveauté et de la jeunesse et qui apparaîtra peut-être beaucoup plus inquiétante dans 2 ans et demi, même si de toute façon, on ne pourra pas s'esquiver.
Autre question ? Je voudrais poser une question. Oui, monsieur.
Je voudrais reposer une question. Plus de politique politicienne, il y a, semble-t-il, un affrontement entre Macron et le président du Sénat. Est-ce que c'est une remise en cause du Sénat qui s'écrase par derrière ?
Je vois où vous penchez, vers quoi vous penchez. Le Sénat a été la seule chambre constante d'opposition sous la Ve République, d'abord au gaullisme, puis au socialisme, puis maintenant Emmanuel Macron. C'est son tempérament et c'est son mode d'élection, et je dirais même son électorat, qui de toute façon l'y pousse. Gérard Larcher est un homme très subtil, très méthodique, et qui a 2 idées en tête. La première est de sauvegarder les droits des sénateurs, qui voient d'un mauvais œil la réduction de leur nombre et surtout la modification de leur mandat, en particulier pour leur mandat actuel. Donc, il est le veilleur devant la porte principale du Sénat. Et puis, il a une autre idée en tête, qui est que quel que soit le résultat, c'est-à-dire en clair, la réforme constitutionnelle passe ou la réforme constitutionnelle est abandonnée, puisque c'est ça, comme ça que ça se passe aujourd'hui, que ça se présente, eh bien, il veut de toute façon apparaître comme le vainqueur, dans les deux cas. Et comme il est très subtil, il y arrivera peut-être. Mais je dirais que, d'un point de vue politicien, comme vous disiez, c'est très intéressant, et que d'un point de vue politique, ça n'a strictement aucun intérêt.
Voilà comblé. Autre question ? Oui, madame. Madame, oui.
Une autre question. Emmanuel Macron a dit, lors de son voyage en Israël avec nous, avec la Chambre de commerce France-Israël, il m'a dit qu'avec l'économie, on peut tout faire. Que ce n'est pas important quand je lui dis, il faut que la politique suive. Il a dit, non, avec l'économie, on peut tout faire. Est-ce qu'il est toujours sur ce mode de fonctionnement ?
Il lui arrive d'être sûr de lui. Et il n'est pas le seul, mais disons qu'il le montre souvent plus que les autres et que ça se remarque plus que chez les autres. Quand il dit « avec l'économie, on peut tout faire », ça ne veut pas dire « je sais tout faire avec l'économie ». Ça veut dire « il y a beaucoup de façons différentes de faire avec l'économie ». Je crois que c'est plutôt ça l'idée. Et il pense certainement qu'il n'est pas le plus mal placé pour ça, mais il est assez avisé pour savoir que ce qu'il aura à faire sera de toute façon très difficile. Parce que entre la situation budgétaire et la dette de la France d'un côté, entre la mondialisation qui se poursuit, que ça nous fasse plaisir ou pas, entre les questions qui seront liées à l'environnement et qui vont bouleverser, y compris, comme on dit, l'allocation de nos ressources, allocation en un seul mot, disons que la marge des gouvernements et des présidents ne cesse de se rétrécir. Et donc que leur ingéniosité est de plus en plus importante, mais qu'elle n'est pas forcément garantie.
Autre question.
Monsieur Hubert Donaltin. Juste une petite question. Est-ce que vous pensez que M. Macron, avant la fin de son mandat, va véritablement s'attaquer aux dépenses de l'État ?
Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'arrivera pas à tout faire. À la fois, et qui n'arrivera pas à diminuer les dépenses publiques. En gros, on est en période de stabilisation, mais pas de diminution. Donc, il n'arrivera pas à la fois à diminuer les dépenses publiques, à faire baisser de façon significative la dette. Elle baissera un tout petit peu. Enfin, on passera de 99% à 96%. Hein. Donc, il jouera sur la marge, au même moment d'augmenter le niveau de vie, d'abaisser la fiscalité, de s'attaquer aux problèmes écologiques et de continuer les réformes. Ou alors, s'il arrive à faire tout ça, eh ben c'est comme avec Napoléon, on aura un génie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avant de vous quitter, libérer, on peut dire, enfin non, je pense que vous n'êtes pas engagé, vous êtes bien. Je vais vous poser une question. Des 10 campagnes présidentielles que vous avez couvertes, comme on dit dans le langage des journalistes, en tant que politologue et historien, là, je vous interroge, quelle est celle qui vous a paru la plus convaincante et celle qui a le plus tenu ses promesses ?
La plus, à mes yeux, la plus brillante, ça a été Valérie Giscard d'Estaing en 1974. Notamment parce que, comme elle était très brève, le brio, à ce moment-là, trouve sa place, qu'il ne trouve pas forcément quand ça dure. Donc, je pense que ça a été la plus brillante. Je pense que la plus dynamique, ça a été celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Je pense, alors je vais peut-être affoler une partie de ceux qui sont ici, mais je pense que celui qui a tenu le plus strictement ses promesses, c'est de très loin François Mitterrand, qui entre 81 et 83 a fait ponctuellement tout ce qu'il avait dit. L'ennui, c'est que ce n'était pas les bonnes réformes.
Voilà, écoutez, vous avez le mot définitif de l'homme qui est considéré comme étant la voix de la raison. Merci.